curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi 6 février. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Alors, température nettement plus confortable avec autour de moins 7 degrés, nuageux pour l'instant. Peut-être encore quelques flocons. Parenthèse, soyez prudents ce matin, notamment les trottoirs qui peuvent être assez glissants. Parce que d'abord, il a fait très froid. Deuxièmement, il y a eu de la neige. Puis c'est un peu, ça vient couvrir la partie glacée. Et il y aura un dégagement un peu plus tard avec un maximum aujourd'hui autour de moins 5 degrés. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé. Là, on prévoit des températures autour de moins 14. Et puis demain, généralement ensoleillé, de la faible neige qui va commencer tard en après-midi. Et il y a un potentiel de pluie verglaçante également au cours de l'après-midi. Donc, l'heure de pointe demain et durant la soirée. Et durant la nuit de mardi à mercredi, c'est de la neige intermittente ou de la pluie. Regardez, le maximum aujourd'hui, moins 5. Demain, mardi, c'est autour de 0. Mercredi, 2 degrés, donc on est au-dessus du point de congélation. Je commence ce matin par le tremblement de terre en Turquie. Enfin, il y en a deux. Un autre qui s'est produit il y a quelques minutes à peine. Déjà, plus de 1300 personnes ont perdu la vie. Le premier tremblement de terre a fait d'abord donc 1300 morts, 7,8 à l'échelle de Richter. Et le deuxième a fait 7,5. Donc, deux tremblements de terre extrêmement importants. Le bilan qui risque d'évoluer rapidement. Beaucoup d'immeubles se sont effondrés, notamment dans la ville turque de Gaziantep. Ça s'est passé le premier, là, à 2h du matin, heure de Paris. On dit que le séisme, ce qu'on a noté, c'est une profondeur de 18 kilomètres. Et on est à vol d'oiseau à 60 kilomètres de la frontière avec la Syrie. Donc, ça a été ressenti, évidemment, en Turquie, en Syrie, au Liban et aussi en Israël, même jusqu'à Beyrouth, dit-on. Et c'est pas la première fois qu'il y a des tremblements de terre dans ce secteur. La Turquie, l'Iran sont des endroits où l'activité sismique est importante. Et on a l'impression, à première vue, là, que c'est le tremblement de terre le plus fort depuis 1939 en Turquie, qui avait fait des milliers de victimes. Et donc, on aura probablement un bilan très lourd. Les infrastructures ne sont pas terribles non plus. Et il y a eu des cas de tremblements de terre, par exemple, en janvier 2020, toujours en Turquie, qui avait fait 22 morts. Mais cette fois-ci, c'est majeur. Et je peux vous dire que les images qu'on voit sont terribles. Et déjà, on est rendu là, et ça grimpe à une rapidité folle, autour de 1500 personnes décédées. Alors, voilà pour ce qui est des deux tremblements de terre. Maintenant, pour ce qui est de la Chine et des États-Unis, c'est un week-end assez complexe. On s'est laissé vendredi avec un ballon chinois qui, en gros, a survolé le Canada et l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, pendant 8 jours. Et on a décidé de l'abattre en fin de semaine, ce qui donne lieu à des échanges diplomatiques corsés entre les Chinois et les Américains. Le deuxième ballon flottant au-dessus de l'Amérique latine, et ça a été pointé par les Américains comme un engin de surveillance, provient de Chine, mais serait de nature civile. Ce que les Chinois disent, c'est que ce sont des appareils donc civils qui ont carrément dévié de leur trajectoire, mais là, c'est dévié pas un peu, puis c'est pas mal dur à croire, et que après vérification, il s'avère que ce ballon sans pilote provient de la Chine, qu'il est de nature civile et utilisé pour des essais en vol. Donc, sous l'effet du climat et en raison de certaines limitations dans sa gouvernance, ce ballon a dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les Américains ne croient pas ça. On sait que les relations au chapitre de l'espionnage sont tendues. Je lisais ce matin une espèce d'historique, notamment quand les Chinois ont mis la main sur des plans des avions de combat F-35 pour équiper leurs propres forces aériennes. Puis il y a eu plusieurs événements où les Chinois, puis on le voit encore avec le Canada la semaine dernière, où on demande aux universités de faire preuve de plus grande vigilance quand on développe des projets de recherche avec des universités canadiennes et des projets à des fins militaires. Donc Jean-François Lépine sera avec nous pour en parler ce matin. Puis je peux ajouter aussi que l'Ukraine, nouveau ministre de la Défense, tout ça dans un contexte de corruption dont on a déjà parlé. Et ça arrive au moment où on s'attend à une vaste, mais très importante, offensive des troupes russes, dont la pression augmente actuellement dans l'est du pays. Chez nous, il semble qu'on a une entente entre le fédéral et les provinces pour le financement en soins de santé. C'est le Globe and Mail qui rapporte ce matin que le premier ministre Trudeau est en train de finaliser l'entente qui devrait être entérinée, présentée d'abord, puis entérinée au premier ministre des provinces demain pour une réforme à long terme et structurante du financement en soins de santé. Ce qu'on comprend, puis ça reste à être validé, deux ou trois éléments importants. D'abord, c'est un financement au prorata de la population. Deuxièmement, en plus des paiements de transfert, des ententes particulières peuvent être signées avec les provinces. On peut penser à la santé mentale et on peut penser aux soins pour les personnes âgées. Et troisièmement, les provinces doivent s'engager à ne pas prendre l'argent et le dépenser ailleurs et à ne pas non plus réduire leur contribution, leur pourcentage au budget de la santé. Alors, le message du fédéral, c'est on vous donne l'argent, vous en avez besoin, on est d'accord. Le financement coûte de plus en plus cher, mais c'est pas vrai que vous allez faire comme Jean Charest qui avait pris 2 milliards des conservateurs puis qui avait décidé de baisser les impôts. Alors, M. Trudeau veut mettre des balises. Est-ce que ça va passer? Ça semble être le cas, là, parce qu'on prévoit déjà la rencontre demain. Et il reste toujours à voir les montants, mais on serait quand même assez près d'une entente, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Puisqu'on parle du réseau de la santé, on a jasé pas mal la semaine dernière. Je vous donne un cas ce matin, et c'est le genre de truc, là, puis tout le monde va me trouver une raison logique, là, mais il en demeure pas moins que c'est effarant. C'est un petit gars, il a 12 ans, maladie de Crohn, diagnostic en septembre dernier. Et son fils, c'est sa mère qui m'écrit, commence à avoir des symptômes à nouveau dans les derniers jours. Elle parle avec son médecin spécialiste, qui m'a envoyé par courriel les tests à passer dans ma région. Elle dit, j'ai pas besoin de me déplacer à Sainte-Justine. Mon médecin collabore, c'est génial. J'appelle au CLSC à Saint-Julie pour leur dire, est-ce que je peux chercher, passer donc chercher des contenants, il y en a deux, stériles pour les deux requêtes du médecin. Là, je me suis fait répondre qu'il fallait que je prenne un rendez-vous en ligne pour aller chercher les contenants. Que c'était un incontournable, premièrement. Le prochain rendez-vous libre est dans 3 semaines. OK? En plus de ça, c'est disponible là, les lundis et mardis avant 10 heures le matin. Mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de service. Pénurie de main-d'œuvre, probablement. Et là, on en est là, là. Tu dis, mais je ne peux pas aller le chercher. Non. Alors, ça veut dire que ça va prendre 5 semaines, probablement, pour avoir le rendez-vous, pour ensuite être capable d'avoir l'échantillon, de retourner l'échantillon puis d'attendre le résultat. Puis là, s'il n'est pas bien entre-temps, ben il pourra toujours aller à l'urgence parce qu'on le sait, c'est la porte d'entrée dans le réseau. C'est pas une affaire majeure, mais entre vous et moi, là, peux-tu passer chercher les contenants stériles? Je sais que vous allez me trouver un protocole quelconque qui dit non, il faut que ça soit une infirmière, il faut que ça soit... Hey, c'est pas une prise de sang. Puis là, c'est-tu quoi? Elle prend la place de quelqu'un qui, sans doute, irait pour une prise de sang. Ça, c'est l'autre affaire. Après ça, on se demande pourquoi c'est compliqué, puis pourquoi c'est lourd au Québec, puis pourquoi... Puis pourquoi lundi, mardi, avant 10 heures? Je veux dire, du monde qui travaille, je veux dire, ça a l'air bien compliqué. Et aussi ce matin, Radio-Canada revient sur la firme McKinsey. Toujours bien intéressant. Alors, on sait que McKinsey dit, son grand patron, M. Barton, qui a témoigné la semaine dernière, dit, non, nous, on va chercher des contrats, mais peut-être jusqu'en 2100. Mais on n'est pas des amis, Justin Trudeau et moi. On s'est fréquentés, mon nom ambassadeur, mais non. Et là, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que McKenzie n'est pas enregistré dans le registre des lobbyistes au Canada, au Québec et en Ontario. Quiconque veut faire des représentations, puis c'est légal, là, de vouloir influencer des décisions, ben vous devez vous inscrire, puis dire voici qui je vise, pour quelle raison, puis pendant combien de temps, puis tu sais, il y a comme pour éviter comme ça des fling-flang. Alors là, McKenzie répond, c'est un reportage de Thomas Gerbet, non, nous autres, on fait pas de lobbying. Ah non? Non, nous autres, on donne des conseils. OK, mais pour avoir des contrats, puis expliquer que vous êtes extraordinaire, que vous conseillez la planète au complet, vous faites des démarches, il y a des échanges de courriels. Ah non, non, non. Et pourtant, d'autres firmes doivent s'inscrire et s'inscrivent, puis là, on peut les nommer KPMG, d'autres grands cabinets de conseil, Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse. Pourquoi McKenzie, c'est différent? Ils veulent pas obtenir de contrat, ils veulent pas... Non, nous autres, on donne des conseils sur la façon de se préparer, par exemple, pour d'autres pandémies, puis comment réformer le système de santé. Je reviens sur le dossier du président de Future Électronique, Robert Miller, qui d'ailleurs a quitté son poste vendredi. Depuis qu'on s'est parlé, on a appris un certain nombre de choses. Un, il a décidé de quitter. Deux, le DPCP invite les gens qui ont des informations à donner, des témoignages nouveaux, des faits additionnels, de contacter donc la Direction des poursuites criminelles et pénales, peut-être pour y activer le dossier. André Savard, qui a été enquêteur aux homicides de la police de Montréal, sera avec nous tantôt, faisait partie d'un groupe de privés qui ont suivi Miller, qui ont vu les jeunes filles en question et qui comprend pas qu'il n'y ait pas eu d'accusation. Moi, j'ai lu beaucoup en fin de semaine de papiers là sur des analyses juridiques de tout ça, c'est bien intéressant. Mais en bout de ligne, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que si vous avez des informations concernant ce système de prostitution impliquant des mineurs ou si vous préférez de très très jeunes filles, ben c'est le temps de le dire. Puis si on vous a pas cru à l'époque, si c'est ce qu'on croit comprendre dans certains témoignages, vous l'avez pas eu facile parce que monsieur est capable de payer beaucoup d'avocats pour éviter les problèmes, ben vous pouvez peut-être le faire. Vous dire, ça serait peut-être bien que je puisse parler. Puis des filles qui sont payées mineures pour des rapports sexuels, c'est illégal. Je pense que c'est important de le dire. Donc, André Savard sera avec nous. Toujours dans ces dossiers en parallèle, la presse ce matin nous parle de technologie française concernant la capacité de débusquer des vols à l'étalage dans le commerce au détail. Puis c'est une technologie donc française. Puis là, c'est pas de la reconnaissance faciale. Puis une entreprise de Montréal qui a le logiciel qui s'appelle Vision ou Vision, là. Et ce que ça a fait, c'est qu'on a observé des vols à l'étalage, on a enregistré des comportements, des mouvements de mains, de bras, de jambes, de tête. Et là, quand l'intelligence artificielle pense que quelqu'un représente une menace, qu'il est sur le point de commettre un crime, ben on envoie une alerte à l'agent de sécurité ou au gérant disant « il y a un risque de vol ou il y a un très grand risque de vol ». Bon. Il y a une pharmacie, ou plusieurs, là, c'est pas clair, mais qui est en train de faire le test. Puis là, les grandes bannières disent, c'est pas nous autres. Mais est-ce qu'un franchisé a décidé de le faire? Possible. Et là, évidemment, c'est toute la question, là. Quelle est la preuve que ça vient établir? La fiabilité de ça? Déjà que la reconnaissance faciale, vous le savez, ça a amené un lot de contestations. Alors, c'est une entreprise donc de Saint-Hubert qui a décidé de tester ça depuis le mois d'octobre dans une succursale d'une pharmacie. Tout ça pour coincer les gens qui font du vol à l'étalage. Élection dans Saint-Henri-Sainte-Anne, mais ça va être déclenché aujourd'hui officiellement, puis l'élection aura lieu le 13 mars prochain. Également, M. Trudeau est pogné avec une de ses députées, et qui est toujours la même, là. Elle s'appelle Emmanuela Lambropoulos, qui avait quitté d'ailleurs son poste du comité des langues officielles parce qu'elle disait que le déclin du français, là, c'était un mythe, que c'était faux au Québec. Et là, elle a décidé d'en repasser une couche pour raconter l'histoire de quelqu'un qui avait dû aller à un rendez-vous médical avec sa grand-mère parce que lorsqu'elle s'est rendue à la clinique, ils ont refusé de la servir en anglais. La médecin parlait en anglais avant l'adoption de la loi 96, mais là, elle ne parle plus en anglais parce qu'elle a peur de faire l'objet d'une... Tout ça est faux, de A à Z. Et d'ailleurs, la loi dit qu'un professionnel peut pas refuser de donner des soins pour une question linguistique. T'sais? Mais évidemment, quand les faits font pas ton affaire, c'est facile de sauter puis en tirer des conclusions. Puis là, elle a essayé de se ravaler un peu, mais pas tant que ça. Ça, c'est le genre de député que M. Trudeau traîne dans sa petite poche. Toujours dans le cas du débat qu'on a eu la semaine dernière sur la consultante, la conseillère sur l'islamophobie, puis des propos entendus par d'autres députés sur le racisme des Québécois. Là, c'est nous dit non, le français, ça baisse pas au Québec. Or, on sait tous que c'est une forme de déclin qui est palpable, qui est mesurable. Puis là, on invente des histoires qui se passent dans des cliniques médicales. L'autre dossier dans la presse, super intéressant, ça concerne les courtiers immobiliers qui, ça fait des années que ça existe, là, mais disons que si vous décidez de vendre votre maison sur Duproprio ou Marketplace, vous allez recevoir des appels qui ne sont pas légaux de courtiers immobiliers. Puis là, on va vous raconter toutes sortes d'histoires. C'est l'approche vendeur, là. Ah, pas encore vendu. Ah, j'ai un client pour toi. C'est le genre d'argumentaire facile, là. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup de courtiers appellent les gens dès qu'ils voient une maison sur un site comme ça. Et c'est illégal. La sanction peut aller à 1 500 $ par infraction par courtier et 15 000 $ pour la franchise. Depuis 2009, vous pouvez inscrire votre numéro à la liste nationale des numéros exclus. Et donc, on n'a pas le droit de vous solliciter, sauf quelques rares exceptions. Vous lirez dans la presse ce matin, mais les gens surveillent pas ça. Puis les courtiers disent, hey, avant qu'on soit pogné, avant que quelqu'un porte plainte, c'est pas grave. Puis de toute façon, tu vends ta maison, tu vas avoir des appels, ben j'ai le droit de t'appeler. C'est pas vrai. Fait que tout l'argumentaire qui peut vous sortir, c'est faux. Et on comprend là que tu vois des maisons passer, puis tu te dis, hey, je vais aller cogner à la porte. Et là, ce matin, vous avez des gens de Remax, Bardagé et autres qui disent non, non, fais pas ça. C'est pas une pratique. Puis il y a même la vice-présidente et chef des opérations de Sutton Québec, Mme Julie Gaucher, qui a dit dans un premier temps qu'ils ont le droit parce qu'ils offrent leur numéro à tout le monde pour ensuite être obligés de se rétracter. Puis dit, savez-vous, je pense que vous avez raison, puis on n'a pas le droit de faire ça. Fait ou bien c'est un manque d'information, ou c'est carrément une passe pour aller chercher des clients. Donc, dans la presse, vous allez retrouver ça ce matin. Aussi, on sait que, c'est un tableau dans le Journal de Montréal, il y a une vague de démissions chez les profs depuis 3 ans. C'est encore plus vrai cette année. Puis il faut faire attention. Un, ça compte pas les retraités, mais il y a des profs qui changent d'endroit. Ça veut pas dire qu'ils quittent l'enseignement. Et on sait aussi, par contre, qu'il y en a plusieurs qui décident que c'est terminé, que ça les intéresse plus, que c'est rendu extrêmement difficile. Et puis, vous dire également, pour ce qui est des nids de poules, je vais terminer là-dessus, c'est encore dans le Journal de Montréal, le nombre d'automobilistes qui ont demandé à être dédommagés par la ville après avoir cassé une pièce de leur véhicule en roulant dans un nid de poules, record pour 2022, 1116 demandes de dédommagement. Et à titre d'exemple, en moyenne, là, jusqu'avant la pandémie, c'était 482. Fait que c'est assez clair que il y en a des trous, puis malheureusement, comme Marc, ben on tombe dedans, puis on a des quand même montants assez élevés à payer.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
L'essentiel de Paul Arcan.
Revenons ce matin sur l'enquête de Radio-Canada et de CBC, donc l'émission Enquête et de Fifth Estate, au sujet de Robert Miller, ce milliardaire qui aimait les très très jeunes femmes. Pour ne pas dire jeunes filles. Il y a eu des éléments nouveaux depuis vendredi. D'abord, il a démissionné de son poste de président de Future Électronique, cette firme qui l'a rendu milliardaire, qui fait des composantes électroniques. Le DPCP a levé la main en disant s'il y a des gens qui n'ont pas témoigné dans le passé, qui savent des choses, des gens qui ont peut-être des éléments nouveaux, de nous contacter, on pourra sans doute rouvrir le dossier. Parce que, c'est pas vous, mais on a tous comme un drôle de sentiment depuis la diffusion de ce reportage. C'est comme si quelqu'un très riche avait pu s'adjoindre une batterie d'avocats et avait échappé à la justice. Pas d'accusation, rien. Et les jeunes filles qui ont témoigné dans l'émission sont venues expliquer à quel point elles se sentaient, disons, maltraitées par les enquêteurs, qu'il y avait un avocat dont le rôle obscur était quand même présent, ce qui est bien bizarre dans tout ça. Je parle avec André Savard, qui est un ancien enquêteur de la section des homicides de la police de Montréal, qui a aussi été donc détective privé, puis qui a enquêté sur Robert Miller à la demande de son ex-conjointe. Monsieur Savard, bonjour.
Bonjour, monsieur.
D'abord, dites-nous, dans quel contexte vous êtes arrivé dans ce dossier-là? Comment vous vous êtes retrouvé à enquêter sur Miller?
D'abord, c'est suite à des connexions qu'on avait eues dans le temps, qu'on était policier, là, à un moment donné. Il y a une femme, la femme qui se trouve être la conjointe, qui était la conjointe, du moins, de Robert Miller, semblait avoir des problèmes, puis elle en discutait avec quelqu'un d'autre qu'on connaissait, tu sais. Et puis, les conversations qu'on a sues, ben, ça concernait Robert Miller, qui pensait qu'il y avait des problèmes avec les jeunes filles, puis à un moment donné, je pense qu'il avait trouvé des cassettes lors d'un voyage là, de pornographie avec les jeunes filles. Anyway, quelque chose semblable à ça, quand même, qui l'a emmené à en discuter avec la connexion qu'on avait, puis qui a suggéré de nous appeler si on pouvait peut-être l'aider. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que avec mon partenaire, John Westlake, qui était antérieurement de la police de Westmont, lorsque la génération a emmené à Montréal, ben il s'est en allé à la squad des drogues. Donc il a gardé sa position, là, mais il était quand même à la squad des drogues.
Là, je comprends. Ouais, ce que je comprends, M. Savard, c'est qu'elle a des doutes que son mari fréquente des très, très jeunes filles, puis elle vous demande d'aller enquêter ça.
Oui, c'est pas mal ça. Ça se résume à ça. Mais, ça se résume, c'est ce qu'elle pensait, mais okay. elle l'avait jamais vu, constaté, là, tu sais, là, mais elle s'en doutait énormément.
Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez trouvé en faisant l'enquête?
Ben là, dans l'ensemble, c'est que après avoir servi d'anciens policiers de filature avec nous autres, là, parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est dans le secteur de Westmont, fait que tu peux pas stationner des autos longtemps là avant que quelqu'un appelle la police, fait qu'il a fallu s'organiser avec des experts de filature, là, puis après l'avoir suivi pendant, ça a pas été long, je pense une couple de jours. On localisait qu'il y avait d'autres maisons à Westmont à part de la sienne. Et puis là, ces maisons-là, ben là, il y a des jeunes filles qui débarquaient. Là. Naturellement, aujourd'hui, ben c'est difficile à dire, mais c'est une chose qu'on était sûr, c'était des très jeunes filles. Tu sais. Fait que là, pour nous autres, là, ces inquiétudes, les choses qu'on pensait, tu sais, ça se confirmait, tu sais. Bien, naturellement, pas de preuves pour la cour, là, tu sais, mais là, on a fait ça pendant 2-3 mois. On a suivi, des fois, les jeunes filles qui sortaient de là, puis il y en avait qui s'en allaient dans le secteur nord, même rencontrer, pour nous autres, qui étaient des gangs de rue, là, tu sais, qui allaient rencontrer, puis même, des fois, on les voyait à la porte d'entrée qui était tout en vitre, on voyait aussitôt que la jeune fille arrivait, là, on voyait des membres comme nous autres qui étaient des membres du gang de rue qui chicanaient ou ben non, qui semblaient pas être de bonne humeur.
Les filles partaient.
Faut pas oublier qu'on n'était pas dans la police, nous autres.
Non, je sais. Mais les filles partaient, ou en tout cas, vous les avez vues sortir de ces résidences, de ces maisons, avec des cadeaux, là, des sacs de hockey?
Ah oui, absolument. Souvent, il rentrait par une maison parce qu'il y avait plusieurs propriétés, lui, à Westmont. Fait qu'il rentrait, il arrivait par un garage en arrière, il traversait la maison, puis il retombait l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue, là, il y avait un autre endroit, puis là, c'est là que les jeunes filles, surtout, se rendaient. Il passait par la porte d'en avant, mais lui, il arrivait quelques minutes avant que les jeunes filles arrivent, là. On savait qu'il était pas arrivé, puis là, quand c'était le temps de rentrer, la lumière à l'extérieur s'allumait, tu sais. C'est là qu'à un moment donné, les jeunes filles pouvaient rentrer, tu sais, que je me souviens. Mais là, ils sortaient souvent avec, des fois, c'était des sacs de hockey, puis des... suite à nos filatures, ben, on a localisé un endroit dans le bout d'Orval, où il y avait comme un genre d'entrepôt, puis je pense qu'il avait acheté des faillites. Et puis les jeunes filles, même lui, il allait chercher, il remplissait sa valise, puis il allait chercher ça. En tout cas, les jeunes filles, ils semblaient sortir avec... Ben, ils sortaient avec des sacs de hockey. Là, puis, il y en avait même, là, pour dire, il y en avait qui sont arrivés en auto. Et les autos... Les autos qu'il y avait, ben, avec le numéro de licence, on pouvait identifier à une personne qui travaillait pour M. Miller. T'sais. Fait que là, on pouvait constater qu'il y avait un réseau. C'est sûr que c'est pas M. Miller qui se promenait avec les filles, là, mais il y allait à différents endroits, à l'hôtel, mais nous autres, ça a été surtout dans les maisons à Westmont.
Mais M. Savard, vous l'avez dit, oui. Là, vous n'étiez plus policier. Mais si vous aviez été policier là, en service, voyant ce qu'il y avait devant vous, est-ce que c'était suffisant, vous croyez, pour l'arrêter puis ultimement déposer un dossier au DPCP?
Ben écoutez, pour résumer ça, là, on confirmait pas mal que c'était évident que c'était pas des filles qui travaillaient pour lui sa manufacture. Là, le jeune âge des jeunes filles, on avait amplement pour... on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un réseau de jeunes filles de très bon âge. Mais pour le prouver, il aurait fallu continuer l'enquête, tu sais, pour l'amener à la cour. Là, mais on ne voyait aucun problème avec ça. Parce que on pouvait pas se permettre d'aller voir les filles, une fille, puis il y aurait à un moment donné, parler à l'autre, les autres auraient tout eu peur, fait qu'il aurait fallu entreprendre ça comme si on était policier, tu sais. On n'aurait pas pu présentement, là, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous autres, si on était dans la police à ce moment-là? C'est sûr, c'est évident qu'on aurait été en chercher une jeune fille, mais la bonne, c'est autant que possible, là, pour qu'elle nous pour la sécuriser, etc. Mais c'était évident pour nous autres avec l'expérience qu'on avait, puis même une personne sans expérience pourrait voir qu'il y avait un réseau de jeunes filles adaptées pour M. Miller.
Mais pourquoi?
On avait en masse pour ça, mais on pouvait pas porter d'accusation. Okay. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de rencontrer notre plaignante, notre cliente. C'est elle qui nous avait engagés, puis on lui a transmis qu'on avait, qu'on était confirmé, on était sûr et certain qu'elle avait raison, puis il y avait un réseau. Fait que pour ça faire, c'était aussi facile de faudrait transmettre ça à la police, tu sais. Fait que c'est elle qui a pris, on lui a dit qu'elle appelle la police. C'est ça qu'elle a fait, fait qu'on a remis, ça a tout été remis à la police. Et la police croyait, c'est sûr, évident, puis là, je ne sais pas ce qui est arrivé après, mais ils ont définitivement fait une enquête. Et l'enquête pour eux autres, là, je connais pas les détails, mais je sais que ça a été transmis à la couronne. Et pour ce faire, ben, il fallait qu'il y ait de la preuve. Sans ça, il n'aurait pas été porté
okay,
à la couronne.
OK, M. Savard, comprenez-vous qu'il n'y ait pas eu de suite? Que ça soit... En fait, il n'y a pas eu d'accusation à rien, là. Vous me dites, on a été témoin, on a donné le rapport d'enquête à notre cliente. La cliente a donné ça aux enquêteurs. On a entendu dire que ça s'est rendu au DPCP, et puis là, plus rien.
Oui, c'est un fait. Mais naturellement, c'est un autre monde, tu sais, pour nous autres, là, dans le temps qu'on était en police, puis dans le temps qu'aujourd'hui, c'est réellement un autre monde. Fait que nous autres, si ça avait été dans le temps, c'est sûr qu'on aurait détenu ceux qui aidaient à faire, de temps à autre de faire le transport de jeunes filles ou de
ouais.
Tu sais, d'assister M. Miller, là. Puis moi je suis certifié qu'on serait arrivé à une conclusion. Il y avait 7 filles qu'il n'aurait eu quelques-unes qui auraient parlé, j'ai aucun doute de ça. Mais là, nous autres, c'était plus entre nos mains là, à ce moment-là. Fait qu'on pouvait pas aller chercher des autres filles, puis si l'enquête de la police pour ruiner leur enquête à eux autres, tu sais là,
c'est
à
clair.
Un moment donné, on peut pas. Mais comme vous savez, vous êtes certainement un de ceux qui sont au courant. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose, hein. Dans le temps, nous autres, moi, j'ai travaillé avec les procureurs de la Couronne pendant des années. C'était du monde absolument motivé à l'extrême avec nous autres. On se tenait ensemble. Nous autres, on avait quelque chose à faire. On le faisait. On allait porter le tout à la Couronne. Puis la Couronne, les accusations étaient remplies toutes. À ce moment-là, la personne était détenue. Et le procureur de la Couronne nous était choisi pour travailler avec nous autres. T'sais. C'est comme ça que ça marchait. Puis on avait fait des précis, nous autres, là, quand on allait à la cour. Le précis était remis au procureur de la Couronne. On était une équipe, là, tu sais, ensemble. Là, qui... ben aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne.
Mais en tout cas, vous comprenez...
Il y a tellement de choses qui ont changé.
Ouais.
C'est pas la même police qu'avant, non plus.
Non, mais vous comprenez le citoyen qui se dit, c'est-tu quelqu'un qui a pu s'en sauver parce qu'il y a de l'argent, puis c'est-tu quelqu'un qui est capable de payer tous les avocats de la ville les plus chers en ville? T'sais, on a un malaise. Vous avez vu des affaires, puis comme policier, vous dites, c'est clair ce que j'ai vu, là.
Ah oui, absolument.
Il n'y a pas de doute, là.
Pas me tromper. C'est pour ça que ça a été dit, ça aurait été nous autres, c'est sûr. Moi, là, qu'on a rapporté des accusations okay. À un moment donné, là. J'ai aucun doute de ça. Puis je doute pas que la police a fait une bonne job non plus, là. Je peux pas critiquer la police, puis je critique la Couronne. Je ne sais même pas ce que c'est qu'il y a eu ça.
En tout cas.
Une chose demeure, c'est que ça n'a pas fonctionné. T'sais, mais quand une affaire n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas cette preuve, ben là, à ce moment-là, on met pas l'enquête de cette envergure-là d'un tiroir, on va le cacher, on dit on peut pas rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y en a assez pour essayer de trouver la preuve qui manque. T'sais, là. S'il manque quelque chose, pas assez fort pour les autres, ils ont peur de pas gagner leur rôle.
C'est sûr.
Est-ce qu'il y a de l'argent qui est impliqué là-dedans? Là, je peux pas m'embarquer là-dedans. C'est sûr que le gars, il est milliardaire. Fait que money power, là, ça a toujours fonctionné. Ça. Je le sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être avoir la peur aussi de pas réussir dans un cas comme ça.
Peut-être tout.
Il y a eu une pression des avocats. Il y a eu une pression. J'ai l'impression qu'il y a eu des pressions à chaque fois. De la part des avocats, que je me mets à leur place, les autres, avec l'argent qu'ils avaient, là, ils peuvent acheter à peu près tout. C'est probablement tout ou ce monde. Je ne sais pas.
Monsieur Savard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Peut-être. Je vais peut-être un peu trop loin.
Non, mais là, je sais que le monsieur, il va être fort sur les mises en demeure, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de... Mais vos précisions sont importantes. Merci. Je rappelle André Savard, ex-enquêteur aux homicides de la police de Montréal, enquêteur privé sur Robert Miller. Le DPCP disait être prêt à revoir le dossier s'il y a des faits nouveaux. Puis j'imagine que la police de Montréal aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis jeudi, il y a comme un puissant malaise face à ce dossier-là. Tu te dis, mais pourquoi c'est mort au feuilleton? Je rappelle que M. Miller nie formellement et met en garde les médias de parler de ça et considère que ce sont des opérations pour faire de l'argent puis des opérations de diffamation concernant leurs clients. Je voulais faire la mise au point.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Ah ben, ça s'est passé vers 2h du matin, heure de Paris, donc un premier tremblement de terre, puis un deuxième, le bilan qui gonfle rapidement. Officiellement, on a plus de 1600 morts de rapportés jusqu'à maintenant. Donc, en Turquie, également, ça a été ressenti bien sûr en Syrie, de même qu'au Liban et en Israël. Je fais le point avec Delphine Minoui, qui est correspondante du Figaro à Istanbul. Delphine Minoui, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux tremblements de terre?
Ben, pour l'instant, le bilan ne cesse de s'alourdir et c'est assez catastrophique parce qu'on parle d'au moins 1500 morts maintenant, sans compter les nombreux blessés, et toutes ces familles qui se retrouvent complètement affolées dans la rue, sous la neige, dans le froid, qui n'ont aucun abri, aucun endroit pour se réfugier, qui ont fui les secousses de leur maison, qui ont fui leurs immeubles qui, pour certains, se sont littéralement écroulés comme des millefeuilles. C'est une ambiance de panique généralisée en ce moment dans le sud-est de la Turquie.
On peut dire que les secousses ont été ressenties dans plusieurs pays. Je parlais évidemment de la Syrie, le Liban, Israël, mais on peut ajouter l'Égypte, Chypre également.
Oui, c'est ça qui est fou. Ça montre à quel point la magnitude de ces séismes était très, très importante. J'ai parlé avec des habitants de Beyrouth qui se sont réveillés en totale panique en pensant qu'il s'agissait à nouveau d'une explosion. Vous savez, ils sont à peine remis du traumatisme de l'explosion du port de Beyrouth il y a plus de 2 ans maintenant. Et puis, j'ai également discuté avec des gens en Syrie, au nord de la Syrie, qui décrivent une situation encore plus catastrophique qu'en Turquie, parce qu'il faut savoir que c'est une tragédie dans la tragédie pour les Syriens. Ce sont beaucoup de populations déplacées au nord de la Syrie, des gens qui avaient fui les exactions du régime de Bachar al-Assad, qui avaient fui Damas, qui avaient fui Alep, qui se sont réfugiés près de la frontière turque, souvent dans des abris de fortune très mal construits, qui n'ont pas du tout résisté aux secousses. Et à l'heure où je vous parle, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont ensevelies sous les décombres. Et une des personnes à qui je parlais tout à l'heure me disait que au moment où ils essayaient de sauver une personne des décombres, une nouvelle secousse est intervenue et tout le monde a dû prendre la fuite.
Très bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Delphine Minoui, qui est correspondante du Figaro à Istanbul. On va se diriger maintenant du côté de Ankara, où nous attend le photojournaliste Burhan Özbilici. Burhan Özbilici, bonjour.
Bonjour, bonjour Paul.
D'abord, peut-être nous dire un peu comment vous avez appris le tremblement de terre, votre réaction initiale.
Ben écoutez, j'étais réveillé de bonne heure du matin, un peu après 4 heures de bonne heure du matin, l'heure turque. Je pense que j'ai pas senti le tremblement de terre, mais j'avais bien dormi, je me suis réveillé. Ben, j'ai vérifié mes mails, les médias, etc. J'ai vu que les gens, il y a des gens qui signalaient d'un tremblement de terre. J'ai vérifié, contrôlé, c'était vrai, mais on ne savait pas encore l'ampleur. Mais j'ai appris que c'était très fort, avec une magnitude sur l'échelle de Richter 7.4. Et entre-temps, j'ai reçu un message d'une amie allemande à Beyrouth me demandant si je vais bien. J'étais surpris. J'ai dit, mais pourquoi? Je vais très bien. Est-ce que tu as senti le tremblement de terre? J'ai dit, mais oui, on a un tremblement de terre. Et toi, ils avaient aussi ressenti à Beyrouth, au Liban. Et donc, j'ai dû courir, intellectuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai averti mes amis, les news desk, photographes, on a continué à apprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le tremblement de terre avait touché très mal le sud-est de Turquie et Syrie. Et juste à 10h24 GMT, je pense que l'heure du Canada aussi, et avec une profondeur de 10 km. Donc c'était senti en Chypre, sur côte méditerranéenne, Liban.
Oui, j'aimerais savoir un peu, parce qu'on dit qu'il y a 3000, au moins 3000 immeubles qui se sont effondrés. Est-ce que la construction...
Plus de 3000 d'immeubles ou maisons se sont effondrés. Donc, mon estimation, c'est plus de 1500 morts et... plus de 5000, autour de 6000 blessés. On a sauvé à peu près 3000 personnes. Le président turc a annoncé comme 912 morts, mais il y a deux heures. Ce qui me fait peur, c'est une région montagneuse où il a beaucoup neigé derniers jours et on n'arrive pas à joindre les villages. Donc on ne sait pas qu'est-ce que s'est passé dans les villages, mais je connais la région. Les maisons sont très mal construites, pauvrement construites dans la région, même avec 6 magnitudes, 6 échelles Richter, il y a déjà des morts. Mais 7, finalement, on a corrigé à 7,8 sur l'échelle Richter. C'est vraiment très grande. C'est terrible.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Burhan Özbilici, qui est photojournaliste et qui vit à Ankara. Maintenant, Maurice Lamontagne est avec nous, ingénieur sismologue. Monsieur Lamontagne, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous donner les informations dont on dispose concernant le premier et le deuxième tremblement de terre.
D'accord. Dans le cas du premier tremblement de terre, donc hier soir, à notre heure, c'était un tremblement de terre qu'on appelle de décrochement. Donc, c'est un tremblement de terre semblable à ceux qui se trouvent le long de la faille San Andreas en Californie. Donc, le mouvement le long de la faille, c'est surtout un mouvement horizontal. C'est un tremblement de terre qui est relativement peu profond, se produit le long de la faille sur une longue distance. On parle probablement d'à peu près 150 à 200 kilomètres de long. Ce qui fait que dans une région qui va être plutôt allongée, du genre sud-ouest, nord-est, à ce moment-là, on peut s'attendre que les vibrations aient été très intenses et ça fait une bande de territoire où les vibrations étaient très intenses. Donc, la région affectée, on ne parlera pas d'une ville, mais véritablement d'une grande région. Et c'est pour ça que le nombre d'édifices affectés semble tellement considérable. Il y a plusieurs facteurs qui amènent les dommages qu'on constate aujourd'hui. C'est certainement l'intensité des vibrations, parce que la magnitude 7,8 et la réplique de 7,5, ça produit des vibrations intenses. Mais localement, il peut y avoir l'amplification des ondes sismiques. Et par la suite, la qualité des constructions, naturellement, intervient dans le niveau de dommages qu'on constate.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une région, vous l'avez dit un peu, là, mais où il y a quand même une très forte activité sismique?
Et lors du 20e siècle, dans cette région-là, il n'y a pas eu beaucoup de tremblements de terre. La plupart se produisaient plus au nord, le long de la faille nord-anatolienne. Et d'ailleurs, c'était là, au nord, en 1999, qu'il y avait eu le grand tremblement de terre d'Izmit. Mais dans cette région-là, où on a eu les tremblements de terre d'hier soir et aujourd'hui, ce n'était pas particulièrement actif lors du 20e siècle. Pardon. Mais le risque sismique, là, était reconnu. Dans le sens que lorsqu'on regarde les cartes de zonage sismique pour la Turquie, la bande de territoire où s'est produit le tremblement de terre d'hier soir était reconnue comme ayant un grand potentiel sismique.
Monsieur Lamontagne, merci beaucoup. Maurice Lamontagne, qui est ingénieur et sismologue. Maintenant, notre collègue journaliste d'enquête, Fabrice de Pierrebourg, est avec nous. Fabrice, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, tu t'es rendu à Gaziantep, là, qui est la ville épicentre de ces tremblements de terre. À deux reprises, notre collègue Özbilici disait tantôt qu'il doutait de la qualité de la construction des habitations là-bas.
Oui, ben, de mon souvenir, Paul, effectivement, je suis allé deux fois en reportage pour la radio en 2015-2016. Et c'est comme toujours dans les villes de cette région-là du monde, il y a une partie très ancienne. À Gaziantep, il y avait par exemple un château qui date de l'époque médiévale, dont on a vu les images d'ailleurs et qui s'est quasiment effondré. Autour de ça, des rues très étroites avec des petites maisons en pierre, un bazar, enfin des mosquées dont certaines avaient plusieurs siècles. Et dans les périphéries de ce quartier finalement ancien, ben, j'ai le souvenir de constructions un peu anarchiques, d'immeubles en béton, peut-être des années 60, 70, imbriqués les uns dans les autres, des parties un peu plus modernes. En général, c'était souvent des hôtels qui avaient 20, 30 étages dans des tours plus contemporaines. mais c'est quand même une ville de 2 millions d'habitants, là, assez étalée sur plusieurs petites collines, des rues très étroites, donc c'est évident qu'un tremblement de terre aussi puissant dans une zone si dense, avec des habitations si fragiles, on peut s'attendre à un bilan très lourd, quoi.
Un bilan qui, comme on le disait tantôt, monte rapidement. Là, on frôle les 2000 morts jusqu'à maintenant et ce sera probablement plus. Avec ton expérience terrain, comment les secours peuvent s'organiser?
Les Turcs, de ce que j'ai vu à plusieurs reprises, il y a souvent eu des tremblements de terre en Turquie, hein, c'est fort. Ils ont des services de secours qui sont assez bien équipés. Ils ont une sécurité civile qui est assez bien ordonnée et avec beaucoup de moyens. Mais encore une fois, rien qu'à Gaziantep, 2 millions d'habitants, surpris en pleine nuit. Là, on voyait déjà des images ce matin avec des grues déployées un peu partout. On a vu des immeubles dans d'autres villes qui continuent à s'effondrer. L'ampleur de la tâche va être immense, quoi, pour eux, même pour un pays qui est habitué, qui a des moyens de secours puissants. On voit déjà qu'ils ont demandé l'assistance, entre autres, je pense qu'il y a un système en Europe qui permet d'envoyer des secours habitués aux recherches dans ce genre de catastrophe, mais ça s'annonce un défi assez énorme, quoi.
Tu parles de l'importance de cette ville au niveau de la population, mais c'est pas aussi une ville qui abrite ou en périphérie beaucoup, beaucoup de réfugiés de la guerre civile en Syrie.
Oui, et puis c'est pour ça qu'on est allé d'ailleurs, Paul, parce que à cette époque-là, Gaziantep, c'était assez particulier parce que c'était la tête de pont des volontaires qui voulaient rejoindre le groupe armé État islamique, y compris beaucoup de Canadiens, passaient par Gaziantep parce qu'on est à 30 kilomètres de la frontière syrienne du nord Syrie, donc c'est rien. Ils rentraient sur le territoire du groupe armé État islamique par ce pays-là, par cette ville-là, et sinon, il y avait aussi beaucoup de réfugiés et d'ONG syriennes.
Merci, Fabrice.
Merci.
Merci, au revoir. Fabrice de Pierrebourg, journaliste qui fait de l'enquête et spécialisé sur les questions de terrorisme.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ce matin, il y a un dossier dans la presse au sujet, disons, d'une pratique qui est illégale, mais qui est, disons, répandue, qui consiste à, disons, achaler les gens qui vendent leur maison en utilisant Marketplace ou du proprio. Et depuis plusieurs années, vous avez le droit comme consommateur d'inscrire votre numéro de téléphone et des firmes comme ça ne peuvent pas venir vous solliciter. Or, des gens témoignent, puis j'ai eu beaucoup de témoignages ce matin, de gens qui disent, ben moi j'ai décidé d'utiliser du proprio et soudainement je reçois une dizaine d'appels courtiers, même des gens qui prennent rendez-vous comme étant un acheteur potentiel, puis qui une fois sur place disent, ben écoutez, je représente telle bannière, puis j'aimerais avoir votre maison. Alors, vous comprendrez que c'est une pratique qui n'est pas, disons, acceptable. J'en parlais avec Marc Lacasse, qui est courtier immobilier et qui est président de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Monsieur Lacasse, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, j'imagine que vous n'êtes pas surpris de savoir que cette pratique-là existe, qu'il y a des gens dans votre milieu là qui continuent de solliciter, même s'ils n'ont pas le droit.
Ben, je vous avoue que je suis surpris de l'ampleur que ça prend parce que je ne pensais pas qu'il y avait dérapage à ce niveau-là. C'est une pratique effectivement qui est véhiculée par les agences et les bannières. Ils doivent en fait prendre un abonnement à une liste et en font la promotion à leurs courtiers. Alors, je me pose la question ce matin, est-ce que l'arrivée de nouveaux courtiers au cours des dernières années avec la pandémie a fait en sorte que on se doit de recommuniquer encore plus intensément aux courtiers parce qu'on dénonce définitivement cette pratique?
OK, mais parce que ce que j'ai comme témoignage ce matin, là, pis c'est pas scientifique, mais quand même, là, des gens qui reçoivent la visite, j'ai le nom, j'ai la bannière, là, d'une courtière qui dit, ben, si je m'étais présenté comme ça, vous auriez pas voulu me recevoir, donc je m'inscris comme acheteur potentiel. Des gens qui reçoivent des coups de fil sans arrêt, des gens qui... Je veux dire, ça m'a pas l'air anecdotique, là.
je comprends ce que vous dites. On est dans un marché en ce moment, comme vous le savez, qui est un marché où nos taux d'inventaire sont très bas. Alors, je ne peux que penser que les courtiers sollicitent beaucoup plus qu'avant pour tenter d'avoir des inscriptions. Maintenant, ça ne justifie pas le moyen qu'ils utilisent parce que les autres moyens sont légaux. Par exemple, utiliser la boîte aux lettres pour solliciter. Mais définitivement, que le système est en place, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est là. Les courtiers se doivent de l'utiliser. Là où il peut y avoir peut-être une petite confusion aussi, c'est que si vous étiez un vendeur ou vous vendez par vous-même et que j'ai un acheteur pour vous, ça arrive souvent que la propriété que vous vendez par vous-même, bien, moi, je peux vous amener un acheteur. Cet acheteur-là, il est représenté par moi, par un contrat d'achat. Même si vous décidez de vendre vous-même, bien, je peux vous appeler. Mais là, je vous appelle pas pour vous solliciter un mandat. Je vous appelle pour vous amener un acheteur. Ça, cette pratique-là, elle est correcte. Elle est légale parce que c'est pas votre mandat. Je vous sollicite pas. Alors, est-ce que ça aussi porte une certaine confusion dans la tête de nos courtiers? Je vous assure que nous allons déployer différents moyens de communication, okay, nous aussi. Les bannières de fond, hein. Moi, je suis membre d'une bannière. Ma bannière nous le répète sur une base régulière. Maintenant,
mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'amendes qui ont été imposées à des courtiers et à des bannières? Parce que c'est soit 1 000 pour le courtier, puis, ou 1 500, puis 15 000 pour la bannière?
Effectivement, ces amendes-là devraient être dissuasives pour les courtiers. Maintenant, non, ce n'est pas porté à mon attention parce que je pense que chacune des agences essaie de garder ça confidentiellement, ne se vante pas, en fait, que certains courtiers dérogent à la loi.
Oui, mais les amendes, ça devrait être public, ça. C'est comme l'Ordre des professions ou autres organismes professionnels. C'est pas un secret.
Écoutez, vous avez probablement raison, mais pour répondre à votre question, moi, ça n'a pas été porté à notre attention parce que l'article de la presse, en fait, vient vraiment nous ouvrir les yeux sur un phénomène qui était peut-être pris un petit peu plus d'ampleur au cours des dernières années. On n'en entendait pas parler avant. Alors, comme je vous explique, est-ce que le marché est un peu la raison de ça? Mais okay, nous, on va faire notre part, en tout cas, puis je suis convaincu que les bannières vont faire la même chose.
Parfait. Merci, M. Lacasse.
Avec plaisir.
Au revoir. Bonne Marc journée. Lacasse est courtier immobilier, surtout le président de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. C'est important de le dire, là, parce qu'il y a même une VP de Sutton qui disait le contraire dans l'article pour ensuite se raviser puis de conclure qu'effectivement, c'était pas légal. C'est pas compliqué. Si votre numéro, vous l'avez inscrit, on n'a pas le droit. Puis on connaît tous les trucs, là. On n'est pas né de la dernière pluie, là. Je t'ai trouvé un acheteur. Je peux pas croire que tu penses que tu vas vendre ça tout seul. Écoute, j'ai de l'expérience, j'en représente des... T'sais, tous les arguments, on les connaît. Ce qui me dépasse, c'est que quand t'es rendu à prendre rendez-vous pour aller chez le monde, là, c'est quelque chose quand même, là. C'est vraiment... c'est comme une coche de plus. Puis il y en a qui le font. Puis j'ai des noms depuis ce matin, puis des bannières. T'sais, je me lancerai pas dans une chasse, là, mais comme on dit, replacez-vous, parce que c'est une approche, disons... T'sais, ce qu'on n'aime pas de représentants, de courtiers ou de vendeurs, c'est exactement ça. C'est le pratique, là, pas de classe, là, puis pas de respect. Ben, c'est un exemple, ce qui fait une mauvaise réputation à l'ensemble de l'industrie, où il y a pourtant des gens très corrects.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, Réseau de la santé. On vous racontait ce matin l'histoire d'un garçon de 12 ans qui souffre de la maladie de Crohn et sa mère qui veut tout simplement avoir des contenants stérilisés pour des examens pour son fils doit emprunter ce qu'on appelle le parcours du combattant. Elle s'appelle Marie-Josée Lafond. Madame Lafond, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, parlez-moi de votre fils. Il a 12 ans, maladie de Crohn. Le diagnostic est tombé au mois de septembre.
Oui, exactement. Après plusieurs mois de ne pas savoir quoi faire, de passer d'un médecin à l'autre, parce que naturellement, nous n'avons pas de médecin de famille, parce que son pédiatre a pris sa retraite et l'histoire avec le pédiatre a terminé là. Donc, on s'est promené d'une urgence à un centre pédiatrique, à un autre. On a finalement eu le diagnostic avec l'équipe, je dirais, fantastique de gastro de Sainte-Justine.
OK. Et là, votre fils, dans les derniers jours, a eu des symptômes. Il n'allait pas bien.
C'est ça. parce que depuis septembre, il a commencé un traitement immunosuppresseur pour contrôler la maladie. Puis ça allait très bien, mais la semaine passée, il s'est retrouvé avec des symptômes semblables à ce qu'il avait auparavant. Donc, j'ai communiqué avec son médecin, puis il dit, on prendra pas de chance, on va quand même refaire des examens entre les examens de routine, juste pour s'assurer qu'on n'est pas en rechute, que c'est peut-être juste viral et passager.
OK. Puis vous aviez pas besoin d'aller à l'hôpital pour les examens en question, là, pour aller chercher les contenants?
Non, non, parce que mon médecin m'a tout envoyé par courriel, là, les requêtes. Il dit, t'as juste à prendre un rendez-vous pour aller faire la prise de sang. Puis si, toutefois, pour la prise de sang, ça va trop loin, mais il dit, viens à l'hôpital, à Sainte-Justine, on pourra le faire ici. Mais il dit, tu peux tout faire dans ton secteur.
OK. Fait que vous appelez au CLSC pour pouvoir aller chercher les contenants en question, là, les contenants stérilisés.
Oui, parce que il y a un des deux examens que j'ai déjà fait quelques fois. Donc, je sais que ça prend un contenant qui est semblable à celui-là pour la collecte d'urine, par exemple.
OK.
Donc, je sais que c'est un contenant tout à fait ordinaire. J'ai déjà le protocole avec moi. Je sais comment faire le test, puis où aller porter, à quel moment, tout ça. L'autre, c'est pour la détection de l'acide difficile. Lui, je l'ai jamais fait, mais écoutez, à un moment donné, on prend l'habitude puis on sait comment s'organiser. Donc, on se dit, ben, ça sera pas plus compliqué que le précédent. Mais ça a l'air que ça prend un rendez-vous pour aller chercher les 10 contenants. J'ai communiqué avec le CLSC de ma ville vendredi dernier. J'ai dit, ben, j'ai juste besoin d'aller chercher les contenants. J'ai déjà les protocoles avec moi. Ah, ben, madame, faut prendre rendez-vous en ligne sur le Clic Santé.
OK, mais pourquoi je prendrais rendez-vous pour aller chercher des contenants de plastique? Là, je prends pas rendez-vous pour une prise de sang, pour un examen. Là, c'est pour aller chercher un contenant.
C'est la question que j'ai posée à la secrétaire qui m'a répondu. Puis elle a dit non, elle dit faut prendre rendez-vous pour venir chercher un contenant. Fait que j'ai dit, vous me dites que je monopolise le rendez-vous de quelqu'un qui aurait besoin de cet espace-temps-là pour une prise de sang pour aller chercher un petit contenant stérile qui coûte... quoi, 10 cents à produire, même pas, puis je vais monopoliser les ressources de temps, d'infirmières, de tout ça, pour ça. Elle dit oui, elle dit c'est ça qu'il faut faire.
OK, puis je comprends là qu'en plus, la plage horaire, les plages horaires, c'est le lundi, mardi, avant 10 heures le matin.
Ça, c'est pour aller porter l'échantillon une fois qu'on l'a collecté.
OK.
On n'a pas. Disons que j'ai rendez-vous le mercredi pour aller chercher le contenant, mais je ne pourrais pas aller reporter l'échantillon avant le lundi suivant.
Je ne veux pas vous faire crier, Mme Lafond, mais il y a des gens qui nous ont écrit qui souffrent de la maladie de Crohn et pour qui c'est très facile d'aller au CLSC de leur coin pour avoir le contenant en plastique.
Monsieur Arcand, je ne comprends pas. Quand on arrive sur le Clic Santé, c'est bien écrit pour les CLSC de Sainte-Julie et deux ou trois autres CLSC, faut prendre rendez-vous en ligne pour aller chercher les contenants. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma ville, c'est comme ça, mais pas ailleurs. Donc, le plan B de ce matin, c'est que je vais me déplacer à l'hôpital Pierre-Boucher pour aller essayer d'avoir ces contenants-là. Sans rendez-vous.
Puis comment il va votre fils depuis les derniers jours?
Il va mieux. Il va mieux.
Au moins. Parce qu'après ça, c'est l'entrée par l'urgence. Ils vont nous dire, mais pourquoi vous venez à l'urgence? Pourquoi vous n'êtes pas passé autrement? Mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens.
Exactement.
C'est... OK. Ben, bon courage à vous. Bon parcours de la combattante.
Merci,
Mme Lafond. Marie-Josée Lafond, mère d'un enfant atteint de la maladie de Crohn. Hey, c'est pas compliqué à peu près. Après ça, on se demande pourquoi au Québec, au Québec site, là. Mais pourquoi c'est long? Pourquoi c'est mettons, puis il y a des gens qui ont écrit à Marc tantôt pour dire, tu vas au CLSC, tu prends, tu ramènes à tel moment. T'as-tu besoin de prendre la place de quelqu'un avec une infirmière qui est là pour une prise de sang? Puis non. Puis là, je pense qu'elle n'a pas de rendez-vous avant 3 semaines. Mais voyons donc, tu dis... c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.